France Musique.
Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel.
Vous aimez Mozart ?
C'est lequel ?
Le dernier.
Peut-être que j'ai pas de pot avec la musique.
T'en fais aussi ?
Moi, plutôt crevé.
Vous croyez pas que c'est un peu réservé à une certaine élite ?
France Musique.
La 4 saisons n'est pas qu'une pizza.
Saskia Deville.
Ce qui est fascinant avec la musique classique, c'est qu'elle est à l'origine de tout. Elle a le pouvoir de se glisser partout, même dans la musique électro. Alors oui, les musiques de Vivaldi, de Debussy, de Lully ou encore de Beethoven font encore danser les foules aujourd'hui. Et les alliances électro-classiques foisonnent depuis quelques années déjà. Alors, si certaines partitions sont à peine déguisées, d'autres artistes vont plus loin dans le mariage entre les deux genres, et c'est le cas de notre invité aujourd'hui. La musique classique irrigue son écriture, elle fait partie de lui. Il mélange avec subtilité et onirisme, au son de ses claviers et de son ordinateur, ce genre qui le nourrit depuis son plus jeune âge, avec sur l'épaule ce violon qui ne le quitte que très rarement. La musique comme un jeu de piste, ou comme le labyrinthe d'Alice. Bonjour Chapelier Fou.
Bonjour Saskia.
Et bienvenue sur France Musique, musicien électro. On écoute ici votre tout premier tube, hein, Darling, Darling, Darling. Avec votre nom Chapelier Fou, comment ne pas penser à Alice au Pays des Merveilles, évidemment, ce personnage loufoque inventé par Lewis Carroll. Cette folie, peut-on la trouver dans la musique classique ?
Ah bah bien sûr, je sais pas, il me vient tout de suite la folie forcément à l'esprit. S'il n'y avait pas de folie, il n'y aurait pas de création de toute façon. Et non, je pense que elle est partout, elle est dans tous les arts, et c'est ce qui rend les choses intéressantes, quoi.
Comment êtes-vous tombé dans la marmite de la musique classique ?
J'ai été un peu aidé parce que j'avais beaucoup de disques autour de moi quand j'étais petit, vraiment beaucoup. Et puis ma mère jouait du piano, elle chantait, je me suis mis assez vite à travailler le violon, à apprendre le violon, puis un peu plus tard le clavecin, puis voilà, puis un peu toute ma famille est toujours musicienne, donc ça aide, c'est sûr.
Ça aide. Comment, au-delà de la folie, alors peut-être cette touche de folie qu'on peut lui trouver, comment définiriez-vous ce genre de la musique classique ?
Justement, je m'amuserais pas à le définir parce que, qu'est-ce que ça veut dire classique ?
C'est une très bonne question.
Déjà compliqué. Puis moi, j'aime toujours dire qu'il n'y a pas de musique classique ou rock ou quoi, enfin, il n'y a que de la musique. Ce qui est important, c'est la manière dont sont agencés tous les instruments, ou même pas les instruments d'ailleurs. Voilà, j'aime pas les classifications, et j'aime pas non plus parler d'une musique comme étant forcément hybride entre deux genres, parce que il devrait pas y avoir de genre, voilà.
Justement, vous définissez votre démarche artistique avec ces mots, la musique comme un jeu de piste. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par là ?
Ça peut se retrouver dans certains... Il y a vraiment un côté jeu de piste dans certains albums. Je pense notamment à un album qui s'appelle Invisible, que j'ai sorti en 2012, et puis un album qui s'appelle Muance. On peut y chercher des choses. Un peu comme... moi, j'avais des bouquins quand j'étais petit qui s'appelaient, L'oubliette au sang secret. Et c'était toujours au sang truc, et c'était des livres un peu dont on est le héros, et où on peut passer de... Il fallait chercher des choses dans l'image, et puis on passait à la page 12 ou la page 17 selon ce qu'on avait trouvé, etc. Je pense qu'on peut trouver ça aussi dans certains de mes albums.
Justement, alors, avec cette formation violon, dès l'âge de 6 ans, clavecin aussi, qu'est-ce que cette approche ou cet apprentissage de la musique classique vous apporte encore aujourd'hui ?
beaucoup de frustration, parce que surtout maintenant que je joue avec des vrais musiciens
classiques,
certains, j'ai quand même une espèce de complexe d'infériorité, parce que j'ai toujours bâclé en fait ce que je faisais.
Vous auriez rêvé d'une carrière de violoniste soliste?
Non, mais j'aurais rêvé d'avoir plus de facilité quand je m'attaque à des choses un peu difficiles. Mais ceci dit, ça a son intérêt aussi de pas savoir très bien jouer, parce qu'on trouve des solutions, on invente des trucs, et moi je fais que détourner, que prendre des chemins détournés justement pour...
En se trompant, parfois.
En me trompant, ou en essayant de simplifier des choses, ou de passer à... Voilà, quand j'arrive pas à jouer quelque chose au violon, bah, je le joue à l'ordinateur, voilà. Enfin, c'est des... Finalement, ça déclenche des trucs intéressants.
Si l'on fouille dans les souvenirs de Chapelier Fou, peut-être retrouverions-nous des programmes imprimés de concerts de Noël proposés en famille. Chapelier Fou, ça vous rappelle des souvenirs, ce trio de Dvorak?
Ben en fait, là, en écoutant le début, je me souvenais plus ce que c'était. Je me dis, tiens, mais je connais ça. Et moi, j'ai une mémoire de poisson rouge. Hein. Et c'est intéressant hein, de vivre avec une mémoire de poisson rouge. Mais... Ouais, c'est vrai qu'on avait une famille de musiciens, comme je le disais, et on avait une tradition. Ouais, c'était tous les Noëls, on jouait tous entre cousins, on montait un petit programme, et puis on se mélangeait, quoi. Comme on était peut-être une dizaine de musiciens, alors ça permettait des géométries un peu variées. Et c'était
joyeux.
Bien sûr, c'était joyeux. Ouais, je pense que les parents buvaient du champagne avant, donc c'était joyeux. Et puis. C'était les vacances de Noël, alors on se retrouvait, et puis pendant 2-3 jours, on travaillait, on déchiffrait des trucs, et puis on se décidait sur ce qu'on jouait, et puis il y avait des trucs qui étaient bien rodés, il y avait des trucs qui étaient moins, et bah, c'était sympathique comme tout.
Ouais. Il y avait des compositeurs de prédilection?
Non, je pense pas. Moi j'aimais bien jouer Schubert avec ma mère, et puis jouer de la musique, un peu de musique française au clavecin, comme ça, n'est-ce pas, avec beaucoup d'ornements. Ça, je savais bien faire, les ornements. Parce que moi, j'ai jamais aimé travailler, j'aimais bien me complaire dans des trucs que j'aimais bien, quoi. Donc les suites de Couperin, voilà, je les jouais un peu de manière très moelleuse, quoi. Avec des fluctuations de tempo, enfin. Mais oui, non, c'était de la musique que j'aimais bien, quoi. Au clavecin, la musique de Couperin ou d'Andrieux. Je dégoulinais un peu, moi, quand je jouais. Hein. Mais par contre, Bach, j'aime beaucoup, mais ça me demandait trop de travail, quoi.
Est-ce que c'était compatible avec le fait de suivre des études de violon au conservatoire?
Qu'est-ce qui était compatible?
Le fait de ne pas aimer travailler.
Non, parce que j'ai jamais passé mon deuxième cycle, par exemple. J'ai jamais été aux examens, tout simplement. Je sais pas comment j'ai fait pour rester au conservatoire. Normalement, on doit se faire virer quand on est comme moi. Enfin, j'ai passé au moins 3 ans à ne pas passer mon examen de fin de deuxième cycle. Parce que ça me cassait les pieds, ce qu'on me demandait de jouer. Donc, tout simplement, je travaillais pas à la partition là. Je préférais jouer Tzigane.
Alors, Chapelier des Fous, la musique classique vous accompagne encore aujourd'hui. On va écouter ici un petit montage que vous nous avez suggéré avec un de vos titres, Philémon, dont vous avez en quelque sorte, vous êtes inspiré d'une autre œuvre signée Leoš Janáček. Je vous propose de l'écouter.
Qui s'appelle Philémon, qui est l'ouverture de l'album Muance. Et alors, je sais pas si je me suis inspiré de Janáček, la petite renarde rusée qu'on écoutait juste avant, mais en tout cas, il y a vraiment une similitude entre ces deux motifs, là, de 6 notes. Mm-hmm. Enfin, ça n'a pas été volontaire, mais c'était intéressant. Là, je suis tombé dessus récemment. Et bon, là, dans le cas de ce qu'on écoute là, sur l'album Muance, c'est un motif qui parcourt tout l'album. C'est aussi de ça, quand on parlait du jeu de pistes, c'est un motif qu'on peut s'amuser à découvrir dans chaque morceau, parce qu'il est là de manière plus ou moins présente dans tous les morceaux du disque. Et voilà, c'était un album qui a été conçu d'une manière presque un peu classique ou opératique.
On peut penser à Richard Wagner, au leitmotiv.
Mais exactement. N'ayons pas peur des références. Non, mais voilà, c'est un grand morceau d'ouverture qui étale un motif qui sera répété pendant tout le disque. Donc oui, en ça, par exemple, j'ai été très influencé par des processus de musique classique, entre guillemets.
Justement, ces influences sont-elles décelées par vos auditeurs, Chapelier Fou ?
Ben, je crois pas, et je crois que de manière générale, et c'est assez effrayant, la manière dont sont perçues, enfin, la manière dont est perçue ma musique est des fois en décalage avec ce que moi j'essaie de faire passer, et finalement c'est pas important, hein, parce que moi les idées et les concepts, si on peut parler de ça, c'est des choses qui m'aident à fabriquer de la musique, et ce qui est important, c'est que je fabrique de la musique, parce que c'est ce que je fais de ma vie, quels que soient les moyens. Après, j'aimerais que les choses soient perçues, mais c'est pas forcément le cas, et bon voilà, il y a que moi que ça chagrine finalement.
France Musique, Saskia Deville.
En tout cas, Chapelier Fou, vous ne manquez pas une occasion de porter la musique classique sur le devant de la scène, que ce soit de manière très subtile, on vient d'en parler, peut-être pas toujours perçue par vos auditeurs, mais ici, dans le cadre de cette série Variation qui a été diffusée sur Culture Box en 2019, vous attaquez au répertoire d'Éric Satie en duo avec le chanteur et pianiste Bachar Mar Khalife.
Thank you.
Lagnossienne numéro 1 d'Éric Satie, revisité par notre invité Chapelier Fou ici aux côtés de Bachar Markalifé. Comment expliquer que ça marche aussi bien avec Éric Satie ?
Bon, après, la musique d'Éric Satie, en fait, on s'est plongé dedans justement dans le cadre de ce projet. Il n'y a pas que ça. Il y a les morceaux là qu'on connaît bien, les Gnossiennes et les Gynopédies, qui ont un côté répétitif avec une rythmique très immuable, donc qui fonctionne bien avec un peu la musique électronique. Mais il n'y a pas que ça dans la musique de Satie quand même. Voilà, c'est ça, c'est peut-être cette simplicité. C'est surtout la rythmique qui fait ça, quoi, je pense.
Qu'on peut jouer avec des boucles, ça nous rappelle la musique électro, tout ça.
Ouais, bien sûr, ouais, c'est une musique assez répétitive.
Ouais, Éric Satie, l'un des précurseurs de la musique classique minimaliste ou répétitive, évidemment. On peut penser dans la génération d'après à John Cage, Steve Reich, Philip Glass, John Adams, Terry Riley et beaucoup d'autres. Finalement, tout ça constitue l'essence même de la musique électro.
Oui, une bonne partie, en tout cas pour ce qui est la partie compositionnelle, je pense, la répétitive. Ça existe comme mot. voilà, à ça je rajouterais quand même tout ce qui est musique concrète, qui est l'utilisation d'enregistrements, qui a aussi une grande importance dans la musique électronique. Hein, sans ça, mais c'est aussi pour certains aspects, c'est les mêmes compositeurs, quoi.
Ici, on écoute Insee de Terry Riley, première œuvre de musique minimaliste. Vous connaissez ce morceau ?
Ben, je connais très bien, je l'ai pratiqué. En fait, je l'ai pratiqué qu'une fois, d'ailleurs, parce que ça se pratique, c'est une expérience. Hein. Enfin, tous les musiciens qui l'ont joué, je pense,
s'en rappellent,
comprendront de quoi je parle.
Vous pouvez nous expliquer le principe de ce morceau ?
C'est un répertoire de, je sais plus combien, peut-être une quarantaine de motifs qui se jouent de manière répétée, avec un instrumentarium, donc un groupe d'instruments qui n'est pas défini. On peut jouer ça au nombre qu'on veut et pendant la durée qu'on veut. Et c'est juste un long glissement d'un motif à l'autre. Le principe est simple, c'est que quand on entend que quelqu'un d'autre est passé au motif suivant, on fait de même, en prenant son temps. Moi j'ai eu l'occasion de faire ça, c'était dans le Nord, dans les Terrils, donc j'avais appelé ça Terrill Riley, c'était un peu drôle, avec des étudiants. Et on avait fait ça pour instruments et ordinateurs. Donc chacun avait un ordinateur, et chacun son instrument aussi. Ça multiplie par deux, en fait, les sources de son. Et vraiment à jouer ça, donc ça peut prendre bien une heure, enfin c'est à la durée peut-être un peu moyenne. C'est vraiment une expérience à vivre. J'ai eu l'impression d'avoir vécu une semaine, quoi. Quand on joue ça, je m'étais juré en sortant. Bon, on prend toujours des grandes résolutions quand on a des grandes expériences, mais je m'étais juré de faire ça une fois par an, ce que j'ai pas fait. Mais
ça peut venir.
Voilà.
Chapelier Fou, j'aimerais vous proposer de jouer un petit jeu.
Allez.
Allez, on est parti. Les samples classiques dans l'histoire de l'électro. On a choisi quelques-uns. On peut jouer ? On peut essayer ?
Oh, je pense que je suis nul, mais il n'y a pas de problème. Moi, je crains pas le ridicule. Donc,
bon. Facile.
Facile ? Qu'est-ce que c'est ? Qui c'est qui reprend ça ?
Alors, c'est Carl Craig.
D'accord, ok. Bon, je vais quand même dire que c'est le boléro, parce que sinon les gens vont
douter de... Boléro de Ravel, on parlait de rythmine justement, un petit peu plus tôt. Alors, deuxième extrait. In a slow tempo. In a slow tempo.
Alors, je connais... alors, c'est quoi ? Ça peut être... C'est Gershwin, non ? C'est ça ? Alors, qui a repris ça ? On dirait, je sais pas, quelque chose comme Herbalizer ou DJ Food ou...
Alors, j'ai Roudoudou.
Ah, Roudoudou, bon.
Qui reprend ici cet air Summertime de Porgy and Bess de Gershwin. Un petit dernier.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Je vous donne la réponse.
Ouais.
Jean-Baptiste Lully.
Ah voilà.
la marche de la cérémonie turque, ici revisitée par Murkoff.
Ah d'accord, ok.
Oui, il y en a partout. Ce qui est formidable. Et il y a d'autres manières de faire quand il s'agit de marier musique classique et électro. On peut aussi laisser de côté samples et ordinateurs et s'entourer de musiciens classiques. Et vous le faites, Chapelier Fou. Parlez-nous de votre ensemble.
C'est un septuor dans lequel on reprend, en fait, on a réarrangé, j'ai réarrangé des morceaux issus de tous mes disques passés et futurs un peu. Là, c'est vraiment une formule complètement acoustique. On est un quatuor à cordes, un piano, une batterie et un clarinettiste. Et c'est avec cette formule que je tourne le plus en ce moment, mais ce qui est une surprise pour moi, parce que j'ai une tournée solo en parallèle, mais qui se fait presque manger complètement par ce projet qui était censé être presque un truc ponctuel. Mais voilà, on a eu peut-être la chance d'avoir un concert, notre premier concert qui n'a pas été en public, qui a été filmé, qui est disponible
sur Arte.
Voilà, sur Arte Concert, qu'on peut voir sur YouTube. Et je crois que ça a déclenché quelque chose auquel on ne s'attendait pas, enfin en tout cas avec tant d'intensité, parce qu'on a quoi, une quarantaine de dates programmées avec cet ensemble.
Et je vous invite à aller voir, écouter ce concert sur Arte Concert évidemment, et puis dans les salles aussi. Des dates de vos concerts sont à retrouver sur le site francemusique.fr, sur la page de l'émission Chapelier Fou. Merci beaucoup.
Ah, merci.
Et à très bientôt sur France Musique.
À très vite.
Chapelier Fou, qui était notre invité aujourd'hui, à retrouver sur francemusique.fr. À réécouter sur francemusique.fr.